Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Cette semaine, un nouveau trésor de la voûte. Mon éclairante conversation avec Mrim Boutla sur la quête d'identité en tant que jeune chercheur et sur comment trouver sa tribu après le doctorat. Bonne écoute. Nous ne sommes pas tous faits pareils. Ce qui nous motive, ce qui nous passionne, nos valeurs, nos priorités dans la vie. Tous ces traits font de nous qui nous sommes avec notre style particulier, avec nos besoins particuliers, avec nos tocs particuliers. Cette semaine, je vous apporte ma conversation avec Mrim Boutla, qui trace un lien entre la neuroplasticité, les différentes approches à l'expérience du doctorat et les stratégies gagnantes d'exploration de carrière et de recherche d'emploi après le doctorat.
Je trouve vraiment qu'on est des êtres qui sont très, très sociaux. Et donc, trouver ta tribu de personnes comme Papa PhD ou autres, ça te donne un tremplin vers l'espoir. Ça te donne un tremplin vers le chapitre prochain. Et c'est ça, en fait, qui me donne ma motivation à moi. Quand je vois, tu sais, dans les yeux ou dans la posture des gens, que d'un coup d'un seul, ils trouvent « Ah, ouais ». C'est ça dont j'ai besoin pour bouger le schmilblick un petit peu plus. Et c'est très individuel, mais dans les articles LinkedIn que je partage, je donne beaucoup de ces ressources pour qu'ils puissent un petit peu regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre.
Bienvenue à un autre épisode de Papa PhD. Aujourd'hui avec moi, j'ai Mrim Boutla. Mrim Boutla est une docteure en neuroplasticité devenue coach de carrière. À l'université de Brown et à la Kelly School of Business, université de l'Indiana, Mrim a encadré avec succès des centaines de diplômés en art, des MPA, des MBA et des docteurs pour qu'ils obtiennent des emplois leur permettant de maximiser leur impact et leurs revenus. À moitié suisse et à moitié marocaine, Mrim a été la première de sa famille à suivre des études au-delà de la 9e année. Elle a commencé son parcours aux États-Unis en tant qu'étudiante F1 et est devenue citoyenne américaine en 2015. Mrim a obtenu une licence maîtrise en psychologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique, une maîtrise et un doctorat en sciences cérébrales et cognitives à l'Université de Rochester et a effectué son stage postdoctoral en neuroplasticité à l'Université Brown. Au-delà du travail, Mrim aime les voyages à l'international et regarder les matchs de la NBA avec sa fille. Bienvenue sur Papa PhD, Mrim.
Merci beaucoup, David, de ton invitation. Je me réjouis de notre conversation.
Moi aussi, on a déjà parlé un petit peu. Je sens que ça va être une très belle conversation. Et merci à toi d'avoir accepté de donner un peu de ton temps. Je sais que maintenant, tu es confiné, tu as ta fille à la maison. Donc, merci énormément d'être là aujourd'hui.
Avec grand plaisir, merci de faciliter Papa PhD. J'aurais aimé qu'il y ait un Papa PhD quand moi j'étais doctorante.
Bon, mais là, c'est ton tour de redonner. Mais moi aussi, mm-hmm. C'est pour ça que je l'ai créé.
Ouais, et donc on est aligné sur cette mission-là de pouvoir faciliter les prises de conscience pour les PhD, de voir plus d'une voix pour appliquer leurs connaissances et leurs compétences vers l'impact, que ce soit dans le milieu académique, dans l'industrie privée ou bien dans les ASBL, le gouvernement, les multilatérales. Donc, je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup de tout ce que tu fais pour les PhD globalement.
Mais ça fait grand plaisir. Mais tout ce que tu viens de dire, tu as dit un mot impact. Et je pense qu'on peut rentrer direct dans le vif du sujet. Après, on pourra parler aussi un peu de ton trajet. Tu as changé de continent. Mm-hmm. Mais vraiment, tu as dit quelque chose qu'il y a très peu de temps en conversation. Mais venu de quelqu'un d'autre, qui est, j'étais au doctorat et je sentais que je n'avais pas d'impact. Et je sens, et aussi je comprends par la conversation qu'on a eue, que c'était un peu le processus pour toi aussi de comment tu as orienté ta carrière vers ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce choix, de ce processus, de qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire... Bon, j'ai fait la recherche, j'ai fait mon doctorat, postdoc, mais là, je veux faire quelque chose d'autre.
Ouais. Merci, c'est une très bonne question. Et je veux dire que l'impact, ça veut dire beaucoup de choses à différentes personnes. Donc, on a chacun et chacune notre définition d'impact. Et que cet impact, cette définition d'impact change aussi au cours de notre vie. Mmh. Donc, le discernement vers l'impact pour moi, une clarté qui va te permettre d'aller de l'avant et d'être vraiment à l'écoute de toi-même, à l'écoute de ce que tu as appris à propos du monde. Comme ça, tu peux décider d'où est ton impact. Mm-hmm. Tu vois? Et donc, pour répondre à ta question en termes de ma soif de connaissance et ma soif d'aller vers le PhD pour commencer, j'ai grandi et je suis biraciale, moitié marocaine, moitié suisse, dans les appartements subventionnés à Lausanne. Mm-hmm. Et donc, on n'avait pas beaucoup de sous dans ma famille. Et il y avait toujours cet instinct en moi. Pourquoi est-ce que les gens en savent plus, mais ne se comportent pas mieux,
oui.
si tu veux. Et deux aspects en particulier me sont vraiment restés de mon enfance. Le premier, c'est qu'on sait que les drogues, c'est pas bon. Mais pourquoi est-ce que dans mon quartier, il y a des gens qui commencent à faire du marché de drogue vers la 6e-7e année? Mm-hmm. Et le deuxième, c'était, on sait que la violence ne résout rien. Pourquoi est-ce que les gens continuent à se taper dessus? Tu ouais. vois? Alors, il y avait cette dissonance très, très tôt. De comprendre pourquoi les gens, quand ils en savent plus, ils ne se comportent pas mieux. Et c'est arrivé très tôt que les gens, ils perdent la boule quand il y a des émotions qui les submergent et qui savent plus comment gérer ces émotions-là, ou qu'ils se trouvent dans tellement de stress et d'injustice qu'ils se retranchent dans les seuls retranchements de contrôle qu'ils puissent trouver.
Ouais.
Alors, j'ai toujours été fascinée par cette interaction entre la connaissance et les émotions dans l'esprit, dans leur influence, dans notre habileté de prendre des décisions qui nous servent ou qui nous mettent dans la M, mm-hmm. si tu veux. Mais j'avais pas de sous, donc à la fin de la 9e, il fallait que j'aille à un apprentissage. J'ai pris un apprentissage d'employé de commerce okay. à la chambre de commerce à Lausanne. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis après, j'avais toujours dans l'arrière de mon esprit, j'aimerais comprendre le cerveau, j'aimerais comprendre comment les gens pensent, comment les gens se sentent. Mm-hmm. Et à ce moment-là, j'étais dans une équipe de volleyball. Okay. Et puis, c'est la première fois où j'ai eu beaucoup de gens. Pour eux, leur ligne de base, c'était d'aller à l'Uni. Mais moi, je n'avais jamais... été exposée à ça. Ma mère est caissière, mon père, il ne sait pas lire et écrire et puis il est dans les chantiers. Okay. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'exemples ouais. autour de moi d'être éduquée. Et puis, ces gens-là ont commencé à me dire « Mais tu es intelligente, pourquoi tu n'y vas pas ?»« Pourquoi pas ?» Et tu sais, en Suisse, il y a une expression qui m'énerve tout le temps, c'est « ça ne se fait pas ».
Ok.
Alors, d'aller de « ça ne se fait pas » à « pourquoi pas », ça a été transformationnel pour moi. Et donc, j'ai trouvé des mentors, j'ai trouvé des copains, un petit copain aussi. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Mmh. Alors, quand j'ai fini mon apprentissage, j'ai travaillé en tant que caissière. Je suis allée à l'école de com pour avoir ma maturité cantonale en administration oui. D'affaires, donc à l'école de com. Et puis après, j'ai pris mes clics et mes claques et je déménageais avec mon petit copain en Belgique.
Ok.
Et là, ça a été, si tu veux, une révélation. Parce que d'un coup d'un seul, je me suis, j'ai payé mon uni, je travaillais pendant l'année, je travaillais en été, des petits boulots, tous les petits boulots que je pouvais faire, je les ai pris. Mmh. Et c'est là, en fait, que j'ai pu découvrir, je me suis enregistrée à UC Louvain, à l'Université de Louvain, à Louvain-la-Neuve-Otigny, mmh. en psychologie. Et en deuxième année de psychologie, tu as une fourchette, si tu veux, et tu as 6 ou 7 spécialisations que tu pouvais choisir. Et puis, une des spécialisations, c'était la neuropsychologie.
Okay.
Et d'un coup d'un seul, j'ai découvert la neuroimagerie, l'imagerie du cerveau qui venait en fait, c'était en 94-95, qui commence à émerger, ouais, si tu veux. Ouais. Et je me suis dit, purée, non seulement je peux comprendre les émotions, les actions, dans le terme de la psychologie et de l'esprit, mais d'un coup d'un seul, je peux y aller avec l'appareil biologique
ouais.
qui facilite la compréhension de ce qui se passe.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour mener les gens à faire ces mm-hmm. choses-là
ouais, ouais. Voilà, donc ce qui se passe au-delà de la surface qui nous influence. Et je me suis dit, boum, C'est ça. Et il y a un principe là-dedans que je trouve fascinant et qui m'a conduite au doctorat, c'est la neuroplasticité. Mm-hmm. Comment est-ce que le cerveau se reconnecte de manière dynamique pour pouvoir bâtir des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements et facilite l'apprentissage et le changement, la croissance personnelle et professionnelle. Et boum, je savais. À ce moment-là, boum, c'était fini. Je savais que c'était ce que je voulais.
C'est une passion.
Et je me suis vraiment dit, tiens, tu dois comprendre ce principe-là. Comme ça, tu peux être plus effective à changer les gens et traiter l'ignorance, traiter la connerie.
Donc, avoir un impact.
Traiter la connerie, c'était l'impact ultime, si tu veux.
Juste une parenthèse. Voilà. On vient de passer les élections américaines et je pense que c'est une thématique encore très... je passe les jugements, mais d'aider les gens à prendre les bonnes décisions, c'est très d'actualité encore. Et donc, je pense que c'était très noble d'avoir cette mission et de vouloir avoir cet impact, même si c'était un peu une mission presque impossible.
Ouais, j'étais jeune, right? Et donc, si tu veux, quand t'es jeune, t'es très ambitieux.
Oui.
Et donc, pour moi, c'était cette soif de la compréhension des mécanismes et je me suis dit, il faut que je creuse. C'est le genre de truc qu'il faut que je creuse. Et puis, à ce moment-là, en même temps, il y avait, et je veux revenir sur quelque chose que tu as dit, les bonnes décisions. Parce que la même chose que l'impact, dépendant de tes optiques et de ta perspective, la bonne décision peut être 180 degrés, ma bonne décision.
Mmh, c'est vrai.
Et donc le cerveau et l'esprit humain sont tellement malléables, mais en même temps, tellement clair quand on vit au jour le jour que de construire ces ponts de compréhension mutuelle, c'est vraiment quelque chose qui, dans ma sagesse naissante, mm-hmm. étant donné qu'on est arrivé à la mi-temps, mm-hmm. on espère ce qui est notre mi-temps, on peut commencer je peux commencer à vraiment aller de l'avant, de dire ma bonne décision n'est pas forcément la tienne. Et comme tu le dis très bien, dans des environnements qui sont super polarisés, comme les politiques nationales aux États-Unis, au niveau fédéral, et puis la poussée de populisme que l'on voit globalement, c'est encore plus important pour les gens de comprendre qu'est-ce qui les influence de manière consciente et inconsciente pour qu'on puisse construire ces ponts. Tu vois? Donc, j'ai eu cet instinct très tôt dans ma vie de vouloir construire ces ponts de compréhension de soi et de compréhension de l'autre. Comme ça, tu peux bâtir des ponts de compréhension. Je pense que c'est parce que je suis née dans une famille biraciale et puis que la tradition musulmane, la tradition suisse sont quand même vachement différentes.
Oui.
Et puis, si on n'arrive pas à s'exprimer, à se respecter l'un l'autre, ça donne lieu à des conflits. Tu vois? Et donc, comment faire la paix? Puis, je suis celle du milieu. J'ai un frère et une sœur. Je crois l'enfant du milieu. Okay. Il y a toujours quelque chose là de négociation qui émerge aussi.
C'est vrai.
Donc, comme tu le dis, la bonne décision, je pense que ultimement, vient de la bonne collaboration et du bon respect mutuel.
Mm-hmm.
Et ça s'érode de temps en temps. Et ça s'est bien érodé maintenant aux États-Unis. Donc, pour en revenir à ta question d'impact, une fois que j'ai compris cet impact que je voulais avoir sur aider les gens à comprendre leurs mécanismes biologiques et comment ça les influence en termes de leurs émotions, de leurs pensées et donc de leur comportement et de leurs actions et de leurs conséquences sur les autres, j'ai décidé de me focaliser sur la neuroplasticité qui s'actionne sur un gros système, c'est le système du langage. Et on savait dans la littérature de neurosciences que working memory avait deux composantes. Une linguistique avec le parler et l'écoute et une visio-temporelle et spatiale qui était non linguistique. Et je me suis dit, ça ne doit pas marcher très bien quand tu commences à comparer les langues orales et la langue des signes.
Okay.
Parce que d'un coup d'un seul, le modèle de Badley et d'autres, eh ben, il marche plus. Et donc, cette capacité limitée à emmagasiner et mettre en place tes connaissances pour y réfléchir et puis après décider de tes actions dans le présent, working memory, mm-hmm. executive function, comment est-ce que ça se passe pour les gens qui sont sourds okay. et qui ont été élevés avec American Sign Language versus les gens qui ont été élevés en anglais seulement ou bien les bilingues qui sont nés entendants dans des familles de sourds et qui ont grandi avec les deux.
Ok, ah, super intéressant.
Est-ce que ça a un impact sur notre capacité de mémoire à court terme ou working memory quand tu ajoutes une composante de manipulation de l'information mm-hmm. en ligne? Et ça a été mon doctorat.
Ok.
Et donc, j'ai eu un article dans Nature Neuroscience. Il y a eu pas mal de succès, même s'il y avait beaucoup, beaucoup de résultats qui étaient nuls. Au début, tu sais, t'as null results.
Oui.
J'avais un des autres étudiants qui m'a dit que j'étais la queen of null results parce qu'il fallait toujours faire, tu sais, qu'est-ce qui est de la différence et qu'est-ce qui est la même chose. Et puis après, faire tes analyses de puissance mm-hmm. statistique mm-hmm. pour voir si c'était dû, en fait, à un problème avec mon design d'expérience ou bien vraiment quelque chose qui était similaire entre les deux populations. Comme ça, je pouvais faire des contrastes mmh. et des comparaisons entre ce qui se passait en mémoire pour les sourds qui utilisaient la langue des signes, pour les entendants qui utilisaient les deux, et puis pour les anglophones.
Mmh.
Et c'est ça, en fait, qui m'a donné la puce à l'oreille, parce que comme on en parlait avant, j'ai découvert autour de moi qu'il y a des gens qui sont fascinés d'accumuler des données pour découvrir et comprendre.
Mm-hmm.
Et ça, c'est vraiment les académiques.
Oui, oui.
Tu vois? Mais moi, j'étais fascinée de découvrir pour comprendre, mais ma compréhension devait donner place à de l'action, à du changement,
mm-hmm, mm-hmm.
à traduire cette découverte dans quelque chose de tangible qui va aider les gens à se comprendre, à comprendre les autres et puis à bâtir ces ponts de compréhension mutuelle et de résolution de conflits ou bien de définir leur propre définition de succès et d'impact. Mm-hmm. Tu vois?
Et ça, juste une parenthèse, je pense que ça, beaucoup des gens qui sont à l'écoute et qui passent par un doctorat ont cette réflexion intérieure de dire, mais surtout, et je viens de parler avec quelqu'un, l'épisode, là, on enregistre, mais l'épisode qui sort cette semaine, c'est quelqu'un qui est à l'Université catholique de Louvain, d'ailleurs, et qui travaille dans la valorisation du doctorat. Elle s'appelle Sophie Leclerc. Et elle, elle disait dans les sciences humaines, elle disait, mais je pense que c'est répandu, c'est quel est l'impact. Il y a des gens qui se posent cette question. Quel est l'impact ouais. dans la société de ce que je fais, de ce mm-hmm. cette chose très pointue que je recherche. Et comme tu dis, il y a des gens pour qui juste cette recherche et cette accumulation de connaissances est suffisante pour les combler. C'est pas une question de suffisante, mais les comble parce que ça va avec leur personnalité. Et il y en a d'autres qui ont besoin de quelque chose, de sentir qu'ils ont un effet sur les cerveaux. C'est très intéressant ce que tu dis. Mm-hmm. Et donc là, ça t'a mis la puce à l'oreille.
Voilà. Et donc, en fait, comme tu le dis, ça m'a mis la puce à l'oreille que je suis pas comme eux. Pour moi, la connaissance doit donner place à un impact concret qui aide les gens à se comprendre mieux et à mieux comprendre les autres.
Mmh,
mmh. Tu vois? Et je sais que si je reste dans le domaine académique, je peux faire du beau boulot, mais je serai 80% de mon temps devant MATLAB à analyser des images d'IRM. Et je déteste ça.
Yeah.
j'ai vraiment envie de voir l'humain derrière l'image. Tu vois? Yeah. Et quand je me suis dit, waouh, ça veut dire que j'aurais peut-être 10-15% d'aller dans des conférences, d'interagir avec des autres, et ça, j'adorais, mm-hmm. parce que bon, tu peux changer les esprits dans ce mais sens-là, oui, de oui. dire, OK, les données démontrent ceci, vont dire, ah ouais, j'ai jamais vraiment pensé comme ça, ou j'ai jamais vraiment pensé à cet angle-là. Donc, il y a cette composante, mais elle fait partie de 10-15%
oui.
De mon temps. Et puis 85%, c'est IRB, Running Subjects, MATLAB, Write, Statistics, Rinse and Repeat.
Voilà.
Rinse and Repeat, right? Et je me suis dit, tiens, En plus, j'étais sur un visa, j'étais sur mon F1. Mmh. Et donc, c'était en 2003, donc 2 ans après September 11th, okay. En tant que Marocaine aux États-Unis. C'était intéressant. je me suis dit, OK, quels sont les aboutissants qui sont vraiment importants pour moi, cet impact? Et donc, pour moi, c'était la prise de conscience et c'était aider les gens à mieux se comprendre pour pouvoir atteindre leur propre définition du succès. Mm-hmm. Alors, je me suis dit, ah, succès. Si tu parles de succès comme succès académique, c'est bien entendu d'aller vers un postdoc, voilà. D'aller vers un assistant professeur, d'avoir ton propre fonds de recherche et puis d'aller dans ces conférences, d'être super productif en termes d'articles voilà. Dans des grandes publications. Et j'avais un parcours qui commençait à aligner tout ça, mais j'étais pas vraiment super motivée de le poursuivre. Et je me suis dit, tiens, ça veut dire peut-être que je suis pas dans le bon sport ou pas dans le bon terrain. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à penser au succès professionnel.
Okay.
Et puis, au fil des années, j'ai commencé à développer, si tu veux, une analogie que j'utilise avec les gens que je coach, de dire, tu connais Shaquille O'Neal?
Ben oui.
Voilà. Donc, mais tu sais, de temps en temps, je travaille avec des plus jeunes et ils disent, attends, c'est ce vieux gars-là que je vois en télé.
Mais ils l'ont pas
TNT.
Vu au pic de sa forme.
Voilà, exactement. Donc, nous, on a eu la chance, si tu veux, de le voir en pic de sa forme. À Orlando, Lakers, avec Kobe, et puis ensuite, The Heat, et tout le showmanship qu'il a. Et je me suis dit, à la fin de sa carrière, il a commencé un jeu de variété où il était, il lançait des défis à d'autres athlètes professionnels.
Okay.
Tu l'as vu?
Non,
ça s'appelle Shaq versus.
Ah non, non.
Okay.
Non.
Alors j'adore ça comme analogie en termes de croissance professionnelle parce que imagine Shaq qui lance un défi à Michael Phelps pour aller nager dans une piscine, tu vois. Et puis, il a aussi lancé un défi à Roethlisberger, qui est un quarterback de football américain, pour lancer la balle avec lui. Alors, on va tous dire que Shaq, c'est quand même un athlète de pointe.
Oui.
Même à la fin de sa carrière, il était quand même assez performant. Mm-hmm. Okay? On va tous avoir une acceptance de ce fait.
Oui.
Alors, il a lancé un défi à Misty May et sa partenaire qui ont gagné 3 médailles d'or sur le beach volleyball.
Okay.
OK. Donc, le volley de plage. Et lui, il a été mis en paire avec un autre gars qui a aussi eu une médaille d'or en volleyball de plage.
OK.
Alors, tu te dis, OK, Shaq, il est grand, il ne doit même pas sauter pour pouvoir
taper
la balle ou smasher. Il a quand même un bon sens du jeu parce que pour sa taille, il bouge bien, oui, hein, oui. Quand même. Et puis, il est quand même avec quelqu'un qui a gagné une médaille d'or.
Oui.
Et il a dit que s'il perdait, il allait courir avec un speedo rose pétant sur la plage en Californie. Alors, bien sûr, je regarde,
hein,
parce que bon, déjà, c'est le volet, ça revient dans quelque chose que j'adore. C'est Shaq, et puis il a quand même un sens de l'humour et de self-deprecating, je ne sais pas comment dire en anglais.
D'autodérision.
Voilà, d'autodérision, qui va être marrant à regarder. Alors, on y va. Il a été humilié à 100%. Parce que sa taille, oui, il arrivait de temps en temps à bloquer la balle. Oui, il y a une ou deux fois où il pouvait faire un good spike. Oui, il y avait des fois où, par chance, il pouvait défendre. Mm-hmm. Mais la plupart du temps, il était au mauvais endroit,
okay, oui,
au mauvais moment.
Mm-hmm.
Et voilà comment tu peux, en fait, déballer ça pour ta carrière. Imagine que le sport, c'est l'industrie dans laquelle tu es. Mm-hmm. La neuroplasticité pour moi, la neuroscience pour toi. Mm-hmm. En termes de ce que tu as fait à McGill et autres. Le terrain et l'équipe, c'est où tu es. Donc, toi, tu étais à McGill, moi, j'étais à University of Rochester, maintenant, je suis à Georgetown. Mais il y a toutes des dynamiques et des règles dans ce sport et dans les dynamiques d'équipe qui sont chaque fois différentes.
Oui.
Et puis après, il y a ce que tu fais en termes de ton rôle à toi, qui est ta prouesse athlétique, tes connaissances et tes préférences en termes de compétences. Mmh. Ouais. Alors, je me dis, on est tous au PhD des athlètes incroyables, mais c'est des athlètes mentaux.
Tu vois? C'est une belle image.
Et on a une centaine de compétences qui sont super aiguisées, mais on les applique peut-être pas dans la bonne équipe et pas dans le bon sport. Tu vois? Oui. Et j'ai tellement de gens, et moi je l'ai ressenti quand j'étais un postdoc, oh purée, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui a un PhD en neurosciences ne veut pas faire la neurosciences? Tu vois? Oui. Parce que c'est tellement, la connaissance est prévalente, oups, c'est la seule chose que je peux faire. Mais non! La connaissance, c'est un des trois éléments. Et j'ai découvert et affûté, si tu veux, ce système à trois niveaux que j'appelle le triple fit.
Okay.
En termes de match avec les compétences et le titre de ton job. Deux, tes préférences en termes de culture et de secteur qui te donnent lieu à différents employeurs. Et puis, le sport, si tu veux, ou la destination de tes pensées qui va vers l'impact ou l'industrie. Mmh. Que tu veux occuper. Et bien entendu, tu peux l'avoir de manière statique, mais c'est toujours en mouvement, comme je l'ai dit. Shaq, il n'était pas à son mieux pendant toute sa carrière. Quand il était aux Lakers, il était à son mieux physiquement. Après, dans les Heat, il a commencé à faire une transition vers le mentorat.
Okay.
Et ensuite, quand il a été vers les Suns, il a complété son doctorat en leadership. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il enseigne, il investit dans des business, okay, et tout ça. Donc, il utilise des compétences de leadership, d'humour et sa prestance de réputation appliquées à d'autres choses, mmh, maintenant qu'il a fini de participer à des matchs de basket.
J'adore l'image.
Tu vois? C'est et donc, j'utilise beaucoup parce que ça, comme tu le dis, ça résonne beaucoup avec les gens qui sont super compétents. Et si tu as un PhD, tu es super compétent. Mmh. Mais tu l'appliques peut-être dans un terrain, dans une équipe ou dans un sport qui n'est pas aligné avec l'impact ou avec les ambitions que tu as dans ta tête.
Mrim vient de parler d'alignement, à trois niveaux. Mais on est souvent perdu, sans point de repère, quand on décide de faire le saut dans un nouveau domaine. J'avais envie d'en savoir davantage sur ce processus d'alignement et sur les questions qu'on doit se poser quand on est face à un changement de carrière. Et j'ai trouvé très intéressant ce que Mrim avait à partager à ce propos. La question naturelle, c'est comment est-ce qu'on va chercher cet alignement? Quand est-ce qu'on commence à travailler ça? Est-ce qu'au tout début du doctorat? J'ai juste envie de te laisser parler, mais... C'est ça, en pensant aux gens qui écoutent, là, je suis sûr qu'ils se disent « Bon, mais moi, je veux être aligné. Comment je fais ?»
Comment je m'aligne? Voilà. Comment je m'aligne? Dis-moi où je vais. Ouais, ouais. Donc j'ai mis en place, si tu veux, une trentaine d'articles sur LinkedIn. C'est tout en anglais, mais je promets que je vais commencer à traduire tout ça en français parce que c'est ça que j'ai fait durant les dernières 15 années. Mm-hmm. Développer ce « triple fit system ». Et puis, dans mon cabinet de coaching, vraiment aider les gens à l'appliquer pour eux-mêmes. Donc, pour le sport, si tu veux, j'ai développé ce que j'appelle une mosaïque de passion. Parce que j'ai tellement entendu, surtout aux États-Unis, « follow your passion
yeah. ».
Et je trouve que c'est emblématique de la connerie. Parce que tu peux, comme tu le sais, on a 80 milliards de neurones, ils font des connexions sans arrêt. Tu as l'équipement biologique qui va te permettre de pouvoir emmagasiner et poursuivre plus d'une passion à la fois. Mm-hmm. Donc, ça ouvre, si tu veux, l'esprit en termes d'identifier 4 ou 5 passions, le genre de truc qui te donne de la motivation. De lever des fonds, de faire du volontariat, de faire un podcast ou d'avoir des actions qui sont payées ou non payées, qui sont vraiment alignées avec l'impact que tu veux avoir. Donc, tu peux commencer à comprendre et vraiment à commencer à creuser en termes de quelles sont les zones de motivation qui ont été sous-jacentes ou latentes pour toi que tu peux mettre en place en termes de... J'ai une table entre, tu sais... tu peux mettre 4 ou 5 lignes sur une table Excel et tu le mets. Pour moi, en général, c'est la neuroplasticité. Je suis toujours folle de ça. Deux, c'est de promouvoir la prise de conscience et la croissance professionnelle. Trois, je suis une fan d'Enix et je resterai une fan d'Enix, même si les dernières 20 années, ça n'a pas été jojo. Quatre, essayer de promouvoir l'atteinte de diplômes pour les étudiants de première génération. Mm-hmm. Parce que, voilà.
Oui.
Et puis, la quatrième, c'est la santé reproductive.
Okay.
D'être sûr qu'il y ait de moins en moins possible de grossesses non voulues, spécialement en termes d'adolescents. Mmh. Mmh. Donc, c'est des choses que je ne vais pas tous poursuivre professionnellement. Mais après, tu vois, tu as ces 3 ou 4 passions que tu as. Mmh. Et après, tu peux avoir le passé, le présent et le futur. Et dans le futur, comme tu le sais, de la neuroscience, quelque chose dans le futur, j'y ai en général 12 à 24 mois, donc 1 ou 2 ans, parce qu'après, ça change.
Oui.
Donc, quelles sont les choses que tu as faites dans ton passé qui sont connectées à tes passions? Qu'est-ce que tu fais maintenant qui est connecté à chacune de tes passions, que ce soit payé, que ce soit non payé, ou que tu mettes des sous, dont ce que tu achètes, pourquoi tu achètes ce genre de trucs, etc. Et puis, le futur, c'est quel est le centre de polarité pour le moment que tu aimerais tourner en termes de ton prochain mouvement de carrière, de ton prochain choix de carrière, que tu veux mettre en valeur, qui est connecté avec l'impact d'une de tes passions que tu veux poursuivre.
C'est quand même une grosse, c'est quand même une grosse introspection. Hein. Est-ce que les élèves avec qui tu travailles, comment est-ce qu'ils réagissent quand c'est des devoirs que tu leur donnes? Vers à quelle phase du trajet tu vas les chercher, ou ils viennent te chercher, je ne sais pas comment ça marche.
Ouais.
Et après, comment ils réagissent quand tu leur dis, tiens, voilà des devoirs, va creuser.
Ben, en général, cette mosaïque de passion dont je te parle, dans ma classe, parce que j'ai une classe d'entrepreneuriat social avec des undergrad, donc des étudiants d'Uni qui sont dans leur... avant-dernière ou dernière année.
OK, quand même tôt, oui.
Et ils adorent ça parce qu'ils n'ont jamais une classe où ils les engagent à réfléchir sur eux-mêmes. Alors, ils disent que c'est tellement rafraîchissant de pouvoir, un, savoir que je peux avoir plus d'une passion, que je ne suis pas une personne monolithique et que j'ai des choix maintenant et dans le futur. Ça pousse contre plusieurs normes implicites, et spécialement aux États-Unis, où you have to figure it out.
Oui.
And what are you going to do with your life? What are you going to do with your degree? Like, qu'est-ce que tu vas faire avec ton diplôme? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Oui. Comme c'était une ligne droite, alors que c'est, comme tu le sais par ton papa PhD podcast, loin d'être le cas pour 98% de l'humanité.
Oui.
Mais c'est comme ça qu'ils se sentent. Et d'un coup d'un seul, de faire cet exercice, ça leur ouvre l'opportunité de se dire oui, je vais aller maintenant pour les 3 ou 4 prochaines années vers le doctorat, ou bien je vais vendre mon âme et puis aller travailler pour une grosse société, ou bien je vais aller travailler au gouvernement pour quelques années. Comme ça, je peux établir mes compétences, apprendre un petit peu si c'est la bonne équipe, le bon sport, et puis après, je peux me rediriger. Tu vois, donc la pression sur eux est beaucoup affaiblie par le fait de travailler sur eux-mêmes et de voir ça au-delà de la rigidité de leurs pensées et des normes implicites qu'ils ont reçues depuis des années et des années.
Ça doit diminuer aussi leur anxiété par rapport à l'avenir, parce qu'ils se projettent dans l'avenir consciemment et avec intention. C'est génial.
Ouais, et donc c'est cet impact agile, cet impact adaptable qui devient cette source de sagesse et de prise de conscience. Comme ça compte, comme tu le dis, tu sens l'anxiété, tu sens l'inconfort, qu'il y a quelque chose qui marche pas. Tu peux avoir un outil pour revisiter tout ça. Tu vois, tu peux te tourner vers ce genre de truc. Comme ça, tu peux revisiter et puis te remettre en question, de dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Parce qu'on sait de la de la neuroscience que la fuite en avant, de vouloir tout changer tout de suite, mm-hmm. est tentante. Mm-hmm, mm-hmm. Dès que notre cerveau va, si tu veux, donner plus d'importance aux choses qui sont inconfortables pour toi et minimiser les choses que tu adores, que tu aimerais et que tu espères qui seront là aussi dans le chapitre prochain. Mmh. Alors, pour le PhD, les choses qui me manquent le plus, c'est l'indépendance du projet sur lequel je peux me focaliser. J'avais 100% de liberté en termes du projet de recherche. Là, c'est plus le cas dans mon travail. J'avais tout le monde autour de moi qui était tout aussi, je ne veux pas dire ambitieux, mais driven, donc qui voulaient faire de leur mieux, qui étaient vraiment disciplinés, motivés et voulaient le constant défi dans la découverte. Et puis là, ben, y a des gens qui sont là, non, je suis là pour mon boulot.
9 à 5.
Et puis non, 9 à 5, on est parti. Et donc, c'est des éléments, si tu veux, qui pour moi, avoir la conscience de ce qui me motive, de quel est le défi d'après, c'est très revitalisant. Et puis, quand il y a des choses qui ne vont pas pour moi ou pour mes clients de coaching, eh ben, je peux retomber sur les outils incluant la mosaïque de passion, mais j'en ai des autres, pour pouvoir les recentrer en termes de leur passion, qu'on a discuté aujourd'hui, en termes de quelle est la seconde tranche, si tu veux, en termes de culture, collègues, et, lieu, salaire, work-life integration, tous ces machins-là qui sont un autre outil que j'ai. Et puis, bien entendu, les compétences transférables qui ont une valeur en or, mais que tu dois traduire dans la terminologie de ton industrie ou de l'employeur qu'il puisse te considérer comme crédible. Et donc, quand on travaille sur ces trois niveaux, commençons par la passion, allons vers qu'est-ce qui est un bon milieu ou un environnement professionnel pour toi qui va donner lieu à différents types d'organisations, secteurs, et puis même dans les grandes entreprises des départements qui ont des différents écosystèmes qui se développent, bien entendu. Et puis, bien entendu, tes compétences et comment est-ce que tu vas avoir un impact en termes de ton titre professionnel.
Oui, alors c'est super intéressant et je suis curieux de voir les outils. Juste la prochaine question que j'ai, c'est les gens au doctorat, est-ce que, juste maintenant pour voir comment ça marche, est-ce que, étant donné que tu es associé à l'université, est-ce que c'est toi? Comment les coachés, ils viennent envers toi? C'est par leur décision ou tes services sont annoncés? Et c'est quoi la dynamique de comment ils vont te trouver? Et après, mon follow-up, c'est quoi les questions quand ils te frappent à ta porte là et qu'ils ont peut-être un peu la face un peu comme anxieuse ou déconfite? C'est quoi qui viennent t'amener? C'est quoi qui te mettent sur la table comme « Mrim, regarde, je pense que ça ne marche pas ou je suis stressée.
» Ouais. Alors, en termes de connexion, je travaille régulièrement avec Versatile PhD pour offrir des webinaires pour les PhD sur mon website, sur mon site web cognaction.com. Okay. J'ai aussi des articles de LinkedIn. La plupart est en anglais, malheureusement. Donc, cette année, je voulais mettre un peu plus en français. Mm-hmm. Et en général, pour répondre à ta question en termes des problématiques qui m'amènent, ils savent qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mm-hmm. Alors, en général, quand je leur déballe, OK, il y a trois niveaux, celui, celui, cela, lequel est-ce qui résonne le plus avec toi dans le genre « oui, ça c'est clair pour moi et je suis plus content là » et « oups, je sais pas du tout quelles sont les alternatives ici, je sais pas comment aller de l'avant », c'est en général, si tu veux, le bilan que je fais avec eux. Et puis après, les connecter ou avec des exercices ou avec des ressources pour qu'ils puissent avancer schmilblick pour eux, pour pouvoir trouver leur tribu de professionnels qui sont alignés avec eux en termes d'impact et en termes de compétences, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que je trouve vraiment qu'on est des êtres qui sont très, très sociaux. Et donc, trouver ta tribu de personnes comme Papa PhD ou autres, ça te donne un tremplin vers l'espoir. Ça te donne un tremplin vers le chapitre prochain. Et c'est ça, en fait, qui me donne ma motivation à moi. Quand je vois, tu sais, dans les yeux ou dans la posture des gens, que d'un coup d'un seul, ils trouvent « Ah ouais, c'est ça dont j'ai besoin pour bouger le schmilblick un petit peu plus. » Et c'est très individuel, mais dans les articles LinkedIn que je partage, je donne beaucoup de ces ressources pour qu'ils puissent un petit peu regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre et qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Et c'est pour ça que c'est super important et que je voulais donner mon temps pour Papa PhD, parce que tu donnes ces profils qui peuvent, si tu veux, raisonner avec des gens, avec différents aspects, différentes problématiques ou différents défis, qui vont dire « ouais, c'est la personne avec laquelle je dois commencer à me connecter, à réseauter pour pouvoir investiguer comment est-ce que je peux aller dans le pas prochain. »
C'est ce que je souhaite avec Papa PhD. Je suis content que tu dises ça. C'est ma mission. C'est ça. C'est ouvrir le rideau un peu pour que les gens puissent même, et tous les invités que j'ai eus, ils sont ouverts à ça, puissent même cliquer sur le lien LinkedIn que je mets dans les notes d'épisode et aller leur poser des questions. Mm-hmm. Et donc, je suis totalement d'accord. Mais donc, si j'ai compris, les gens qui arrivent te voir, c'est comme Mrim devant MATLAB et qui dit « Ok, je ne peux pas faire ça de ça toute ma vie, je vais parler à Mrim. » Mais la voilà. Mrim de 2020.
Mm-hmm. Essaye, qu'est-ce que j'ai comme perspective maintenant? Parce que ma perspective ne marche pas. Mm-hmm. Alors, comment est-ce qu'on peut ouvrir cette perspective et donner des jalons pour qu'on puisse exprimer quelles sont les choses qui marchent et qui ne marchent pas, et trouver une autre tribu de gens, d'organisations, pour qu'on puisse traduire ce passé vers l'avenir qui est en cohérence avec l'impact et les compétences qui ont été développées.
C'est génial et ça a beaucoup de sens. Maintenant, une question, je l'ai un peu mentionné avant, il y a quand même une différence entre les attentes, ou même pas les attentes, mais ouais, les débouchés classiques, disons, pour des étudiants au doctorat qui sont dans les sciences humaines ou dans les lettres versus dans les sciences, un peu comme nous, on a fait les sciences plus dures, la science de la vie. Est-ce que toi, tu reçois des élèves des deux champs, des deux côtés? Et si oui, est-ce que tu pourrais peut-être avoir des conseils un peu plus pour les uns, un peu plus pour les autres?
Oui, en fait, c'est une question qui est vraiment importante, David, parce que je pense qu'il y a beaucoup de smokescreen. Il y a beaucoup de mésinformations en termes des étudiants en humanité, en sciences sociales et puis en STEM. Et en fait, il y a vraiment 4 ou 5 compétences qui sont mises en valeur dans n'importe quel PhD. La première, c'est le science critique et la recherche rigoureuse. Mmh. Et dans ça, tu vas avoir l'habileté de formuler une hypothèse et après de collecter de la donnée, qu'elle soit qualitative ou quantitative, qui puisse donner un sens de confirmation ou d'infirmation de ton hypothèse, et de pouvoir synthétiser tout ça et une variété de sources en résumés qui sont concis, de valeur et qui sont compréhensibles par des audiences spécialisées ou non spécialisées. Mmh. Alors, la grande différence entre le STEM et les autres disciplines, c'est que les autres disciplines se focalisent en recherche qualitative. Mais ils ont ce sens critique, ils ont cette habileté à formuler des hypothèses, mais le type de données sur lesquelles ils se reposent, c'est l'histoire de leur champ de connaissances et la synthèse de ces différentes perspectives vers une nouvelle perspective qui sont leurs contributions, si tu veux, à la compréhension. Donc, ça peut être en musique, ça peut être en poésie, ça peut être en art, ça peut être tout, mais tu dois être rigoureux en termes de ta perspective et de l'évidence que tu amènes pour pouvoir défendre ta perspective, parce que sinon, eh ben, tu vas te faire tuer dans une conférence ou bien quand tu soumets ton manuscrit. On est d'accord? Oui. Maintenant, les STEM, ils vont utiliser non seulement la recherche qualitative, mais aussi quantitative pour pouvoir consolider la qualité de leur évidence. Ça, c'est une grande différence entre les deux. Oui. Mais ça ne veut pas dire que les humanités et les sciences sociales ne le font pas. ils font ça avec de l'évidence qualitative.
Oui.
OK.
Oui.
Les deuxièmes sens de compétences que tous les PhD ont, c'est les communications par écrit et au travers de la présentation pour des audiences super techniques et des audiences qui sont moins techniques. Quand ils les enseignent, par exemple, pas d'audience super technique, mais quand ils sont en conférence, méga technique.
Voilà.
Okay? Donc, cette flexibilité de communication pour des audiences différentes est super de valeur pour tous les employeurs, mais on ne se rend pas compte parce que pour nous, c'est une ligne de base
voilà.
pour pouvoir faire ça, pour pouvoir, si tu veux, finir notre doctorat. Troisième pilier, c'est vraiment la gestion de projet. D'initier et optimiser des plans de travail pour soi-même, pour les autres, pour s'assurer que tout le monde soit informé et puis fait leur part. Quand tu envoies ton abstract à tes profs, tu veux qu'ils te le rendent à temps pour que tu puisses aller à la conférence.
Voilà.
Ou bien avoir des techniques de communication pour leur dire « si tu me réponds pas par date X, je l'envoie comme tel, parce que sinon t'as pas fini de rire ». Et puis vraiment être sûr que tu complètes tes projets de manière… accompli, mais aussi avec beaucoup de contraintes, IRB et autres, que tu es conforme avec toutes ces normes qui sont explicites et implicites, c'est pas gâteau parce qu'il y a beaucoup de régulations auxquelles on doit s'adapter dans la recherche scientifique, mais aussi dans les recherches de sciences sociales.
Mm-hmm.
Et puis là, la dernière, le quatrième pilier qui est super important et qu'on sait depuis recherche sur recherche sur le 21e siècle, c'est notre habileté pour la créativité et la flexibilité et aussi de pouvoir gérer des personnalités délicates. Et on sait tous qu'on le fait très, très bien quand on est dans l'académie.
Mmh.
Et cette ressource d'intelligence émotionnelle, de créativité et d'entrepreneuriat nous donne lieu à une efficacité interpersonnelle et puis à une discipline de soi qui sont quand même hors du commun. Autrement, tu défends pas ton PhD. Et donc, c'est, tout ça, ça se développe dans n'importe quelle discipline de manière super aiguisée et aiguë. Mais de pouvoir en parler de manière claire, concise et crédible à des employeurs, c'est en général là que le bas blesse.
Oui, oui, oui. Mais, Marim, je suis super content d'avoir parlé avec toi. Malheureusement, on arrive à la fin de l'entrevue, mais tu as parlé de... Vraiment, tu as résumé en deux minutes les quatre piliers très, très importants. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de, tu as utilisé le terme smokescreen ou de brouillage un peu du signal, est un peu illusoire parce que si on creuse un peu, c'est vrai que le premier invité de la saison 2 de Papa PhD, il a fait un doctorat en histoire médiévale et là, il est project director dans une banque.
Oui, c'est, exactement. C'est comme je te le dis, c'est les compétences versus l'industrie.
Ouais.
Tu vois? Et donc, c'est la connaissance de l'histoire médiévale, mais peut-être pas ce qu'il apprécie ou ce qu'il met au boulot, mais toutes les quatre piliers de compétences, je suis sûre à 100% qu'il les a aiguisées durant son PhD et maintenant, il puise sa performance en banque.
C'est sûr. Marim, j'ai très envie de continuer à parler, mais pour aujourd'hui, on va arrêter là. Si les gens qui sont à l'écoute veulent te rejoindre, te poser des questions, peut-être creuser un petit peu plus sur quelque chose que tu as dit, c'est quoi la meilleure façon de te retrouver?
Alors, sur LinkedIn, vous pouvez me suivre. Et puis, j'ai un ou deux groupes. Donc, mon cabinet de coaching, c'est Cognaction,
okay.
COG, N, et puis après Action, parce que c'est de la cognition à l'action.
Mm-hmm.
.com et puis j'ai aussi un groupe sur LinkedIn que j'essaie de faciliter, partager des choses. Je suis sur le groupe PhD Career Networking Group.
Parfait.
Donc les gens peuvent m'atteindre là-bas. Et puis voilà, c'est un peu comment se mettre en contact.
Génial, je partagerai tout ça dans les notes d'épisode. Marim, merci énormément. Je sens qu'il y aura un follow-up à cette conversation parce que je pense qu'en tout cas, j'ai beaucoup aimé et j'ai envie de parler un petit peu plus. Merci énormément. C'était un grand plaisir. Je pense que les auditeurs vont avoir beaucoup à quoi réfléchir en écoutant.
Cogiter.
Très bien. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir si généreusement partagé au long de cette conversation.
Ben, merci infiniment de m'avoir invité. Merci de tout ce que tu fais pour tous les doctorants. Et je me réjouis de continuer cette conversation en français ou en anglais et puis de continuer à promouvoir les épisodes futurs parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de non seulement haute qualité, mais énorme impact pour combattre le sentiment d'isolation, le sentiment d'isolement et puis cette anxiété que je ressens beaucoup en termes de doctorants qui ne savent pas quoi faire d'autre. Et il y a plein de choses qu'ils puissent faire. Et puis, si ça peut continuer à bâtir leur confiance en eux, je suis partante.
Moi, si j'arrive à savoir qu'un étudiant a eu plus de confiance et a trouvé de l'inspiration, ma mission va être accomplie. Donc, je suis d'accord avec toi.
C'est la même chose ici.
Allez, merci beaucoup, Mrim, et à la prochaine.
À la prochaine, bye-bye.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu apprécies le contenu que je produis semaine après semaine, tu peux contribuer à la production du balado en te rendant sur papaphd.com/paypal. Ta contribution sera énormément appréciée. Et si tu veux aider un petit peu plus, n'hésite pas à partager les épisodes qui t'inspirent avec tes collègues ou avec tes amis. Merci, je suis David Mendes. Au plaisir de se croiser sur un autre épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD.